Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h46 sur BFM Business et sur RMC Live. Ce sont deux femmes qu'on reçoit ce matin sur l'antenne avec nous pour parler de Choose France et du suivi des projets. On est avec Béatrice Kozowski, bonjour, présidente d'IBM France. On va revenir sur les investissements qui avaient été annoncés en 2024, notamment avec ces 45 millions d'euros autour du plateau de Saclay. On va voir où ça en est dans un instant. Isabelle Von Rijck, bonjour. Vous êtes la présidente d'UPSA. UPSA, c'est les Feralgans, c'est le Dafalgan, c'est le Fervec. Je disais en lancement que vous êtes un groupe américain. Pas du tout. Le capital est japonais. J'avais raté une opération. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes le premier employeur du Lot et Garonne. 2000 salariés chez UPSA, 1900 en France. Vous êtes quasiment un groupe français en fait.
Absolument. On a fait le choix de la production en France. Donc on emploie en France, on produit en France 100% de nos médicaments. 98% de nos salariés sont en France. Et on paye également nos impôts en France. Donc on a fait véritablement le choix de l'ancrage dans le Lot et Garonne depuis 90 ans.
Alors on entend quand même souvent sur le marché du médicament, que la France, justement, c'est compliqué parce que les prix ne sont pas assez élevés, qu'il y a des difficultés, évidemment, sur les impôts de production, sur le coût du travail. Quand on entend que ce groupe est quasiment français, qu'est-ce que vous répondez? Qu'il y a une mauvaise compréhension du marché?
C'est un choix, c'est une responsabilité qu'on a prise, vraiment, d'investir en France, parce qu'on pense qu'on a besoin d'une entreprise, d'une industrie qui soit forte en France. Et l'industrie française, c'est l'emploi en France. Et donc, on a fait ce choix. Mais on demande aussi à l'État de prendre ses responsabilités et de reconnaître que produire en France, c'est pas le même prix que produire en Asie.
Donc, il faut augmenter le prix du médicament.
Donc, c'est ça, on demande effectivement une augmentation du prix du médicament. Il faut savoir qu'une boîte de paracétamol, aujourd'hui en France, c'est 76 centimes. On la vend 76 centimes, moins qu'une baguette de pain. Donc, on demande 10 centimes d'augmentation, de revalorisation de la boîte de paracétamol en France, sachant que dès le 1er janvier 2027, 100% de la production du principe actif jusqu'à la distribution sera faite en France.
Et c'était fait en Chine auparavant? C'est rapatrié de là-bas ou pas?
Alors, le principe actif aujourd'hui provient de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, mais l'ensemble du reste du processus de fabrication est fabriqué aujourd'hui dans nos usines à Agen, dans le Lot-et-Garonne.
Béatrice Kozowski, quand je fais des posts sur les réseaux sociaux sur Choose France et que j'annonce les montants des investissements, tout le monde me répond, mais combien d'investissements annulés? En fait, très peu. Il y en a 12 sur l'ensemble des projets qui ont été annulés depuis le lancement de Choose France il y a 8 ans. Vous aviez annoncé en 2024 donc 45 millions d'euros. C'en est où en termes de déploiement 2 ans plus tard?
Alors, merci pour la question, parce que ce n'est vraiment pas notre style d'annuler des investissements que l'on annonce. On tient toujours nos promesses. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait annoncé l'installation à Saclay pour notre lab, ouais, qui a ouvert en 2021. C'était essentiel parce que l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur l'IA. Et puis, effectivement, en 2024, on a dit on va étendre les missions pour piloter pour la France, donc vraiment le cœur du réacteur autour du quantique. Donc effectivement, ces investissements ont eu lieu, principalement, je dirais, à travers des recrutements. Là aussi, un focus très fort sur les jeunes, de jeunes ingénieurs que l'on a formés nous-mêmes et qu'on continue de former parce que ça va très très vite. Je pense que vous avez suivi aussi les dernières annonces qu'on a faites sur le quantique. On passe maintenant à l'échelle industrielle. Hein. La première fonderie de puces quantiques a été annoncée la semaine dernière. Donc c'est vraiment une étape clé. Et notre premier ordinateur quantique qui va être, entre guillemets, commercialisable à toutes les entreprises, 2029. Donc en fait, c'est très important. On a recruté aussi quelques expérimentés. On n'a pas de problème d'attractivité. Juste pour vous dire, on est le deuxième employeur préféré des jeunes ouais, diplômés, des jeunes étudiants. Donc ça fait vraiment plaisir de voir cet engouement. Samedi, on avait notre matinée portes ouvertes dans le cadre de Choose France.
Et là, et vous avez reçu du monde?
Non, mais on a vraiment beaucoup de monde. Et on a eu une diversité de populations, ça nous a fait un plaisir incroyable, qui se sont intéressés à tous les sujets, et en particulier le quantique. Je peux juste vous dire, par exemple, il y a une jeune fille, elle est arrivée à 9h, elle est partie à 12h30, elle a écouté 6 fois le topo sur le quantique sans bouger. Juste, voilà, c'est un exemple.
Et après, elle fait quoi? Elle s'inscrit dans une école d'ingénieur?
Alors, on va suivre, parce qu'en fait, l'an dernier, on a touché 25 000 étudiants en termes de cours, accompagnement, de projets, etc. On a beaucoup, beaucoup de demandes des universités. et d'écoles d'ingénieurs, mais pas uniquement sur le sujet. Donc, on essaye d'être très mobilisés pour accompagner le développement des talents.
Ça, vous avez fait pareil chez IPSA, vous avez ouvert vos portes ce week-end, une sorte de tourisme industriel.
Absolument. On voulait montrer ce qu'était un site pharmaceutique. Un site industriel, et on a eu aussi beaucoup de visiteurs qui sont venus, des gens qui effectivement se demandaient ce qu'il y avait derrière les portes d'une usine. Et donc c'est aussi une vraie fierté de pouvoir justement montrer qu'on peut produire en France.
Parce que c'est pas facile de montrer le quantique. Vous avez fait de la démonstration de fabrication de médicaments.
Exactement, de fabrication et de conditionnement de médicaments aussi.
Donc ça c'est sympa. Béatrice, juste sur les 45 millions, vous avez un planning? Vous dites c'est 3 millions d'ici tant, il y a un planning de déploiement ou c'est une enveloppe?
En fait, on avait dit que c'était sur plusieurs années et en fait, on a fait les recrutements. Après, vous savez qu'il y a une dynamique du marché. Bon, je vous avoue que nous, on n'a pas d'attrition quasiment, enfin, sauf dans le conseil, ce qui est normal. Donc, on a une très bonne fidélité de nos talents et ça, tant mieux. Mais on avait dit que c'était sur plusieurs années, mais on est allé quand même assez vite. Alors, ce qui est important, c'est le lien entre le quantique et l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai... Et à part vous, merci pour ça, tout le monde ne parle que de l'IA. Mais il faut imaginer que le quantique va relever l'IA d'au moins 30% des attentes que tout le monde a.
Et, ah oui.
Oui, on va repartir des cas d'usage. Et ça, c'est vraiment depuis des années notre vision de l'informatique. Vous repartez d'un cas d'usage, la gestion de la fraude, l'optimisation d'un plan de transport, le last mile en logistique, par exemple. Et vous allez regarder quelles sont les technologies combinées entre elles, qui vont être les plus pertinentes. Donc, vous avez l'informatique traditionnelle, mais qui est ultra innovante quand même. Vous avez l'IA et vous avez le quantique qui va résoudre des équations qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui.
Donc, le vrai game changer pour vous, c'est l'IA, c'est le quantique.
Bah, le côté dans l'IA, en fait. Et qui, en plus, va aider par rapport aux problèmes énergétiques, aux problèmes économiques. On voit tous les... J'écoutais avec beaucoup d'intérêt le débat tout à l'heure sur les data centers. Mais il faut bien comprendre que l'intérêt du quantique, c'est qu'il est très, très vertueux sur le plan green. Il est totalement exponentiel sur la capacité de calcul, mais pas du tout sur le plan de la consommation énergétique. Donc, en fait, c'est un game changer. Et il faut imaginer que 30% de toutes les tâches que l'on attend de l'IA...
On n'a pas encore vu la révolution qui va venir. C'est vraiment le tout début. On parle de cas d'usage, justement. Isabelle Vendrick, vous travaillez avec l'intelligence artificielle dans la recherche. On voit aussi des espoirs énormes dans les recherches de médicaments, dans la manière dont on travaille dans les laboratoires aujourd'hui.
Absolument. Mais je pense dans toutes les industries, c'est une véritable opportunité d'accélérer, de faire des économies. Nous, on les utilise même dans nos usines, même dans la maintenance, on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je pense que dans tous les métiers, on a des cas d'usage d'intelligence artificielle.
Le vrai sujet, c'est le passage à l'échelle, l'adoption à l'échelle.
Mais ça arrive, vous nous dites.
Ça arrive. Alors,
vous dites 2029, le...
Oui, ça c'est pour le quantique, mais je veux dire pour l'IA, on travaille beaucoup là-dessus. Alors d'abord, on utilise notre laboratoire vivant parce qu'on a réussi, pour nous, à augmenter l'employee engagement des collaborateurs d'IBM, la satisfaction client de 20 points, tout en utilisant l'IA vraiment de façon très très intensive, et on a généré 4,5 milliards de gains de productivité. Ça, c'est intéressant parce que ça montre à nos clients que c'est possible de passer à l'échelle. Le plus important, au-delà de la technologie, c'est évidemment de travailler sur toute l'adoption, le changement, mais c'est aussi la gouvernance de l'IA. Et nous, on a beaucoup investi aussi sur la gouvernance, c'est-à-dire prévenir des risques, les sujets de conformité, les sujets d'éthique. Et là, par exemple, l'investissement qu'on vient d'annoncer avec Red Hat de 5 milliards, c'est pour sécuriser, dérisquer tous les risques de vulnérabilité logicielle, par exemple de l'open source. Toutes les entreprises utilisent énormément l'open source, et le fait de faire ça avec 20 000 ingénieurs qui vont fournir à tous les clients qui utilisent de l'open source, en fait, la façon de dérisquer et de régler les problèmes de vulnérabilité.
Il nous reste quelques secondes, mais vous avez aussi annoncé un plan de départ avec des salariés qui vont devoir partir. Vous dites, il ne faut pas se focus sur ce genre de sujet, il faut regarder le sujet de l'emploi de manière plus générale. C'est quoi votre vision?
Oui, alors en fait, quand on fait des plans de départ, ce sont toujours des plans de départ volontaires qui sont en fait un accompagnement. Mais en fait, très clairement, je l'ai annulé.
Ah bon?
Je l'ai annulé il y a un mois, et la raison est très très simple, c'est que avec un environnement qui est incertain par rapport à certains aspects, moi, je préfère prendre le temps de regarder par rapport à toutes les compétences qu'on a, dont on a besoin, tout l'investissement qu'on fait en formation, l'impact sur les métiers.
Vous avez dit, c'est une connerie, quoi.
Y a des moments où je pense qu'il faut prendre un peu de distance, respirer. Je suis ravie parce que la France a eu les meilleurs résultats du monde pour IBM l'an dernier, quand même, donc ça, c'est positif. Mais il faut accompagner le mouvement. Il y a des moments où je pense qu'il faut savoir aussi dire je prends une respiration et on va retravailler sur des modélisations parce que le sujet est un petit peu mouvant aussi.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin dans la matinale de l'économie. Béatrice Kozowski pour IBM France, Isabelle Von Rick pour UPSA.